Aujourd'hui, dimanche 16 juin, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Et comment pourrais-je aller mal? Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Oui, c'est ma fête. Aujourd'hui, ma fille adorée va me dire, quand je vais rentrer, « Bonne fête, papa !» En même temps, je ne suis pas dupe. Je sais que le cadeau qu'elle va m'offrir n'aura pas une valeur marchande très élevée. Un truc fabriqué à l'école pour presque rien et en échange, je sais qu'elle espère de ma part une réaction attendrie qui me mettra enclin à vouloir, moi aussi, lui faire un cadeau. Un cadeau qui lui sera beaucoup plus cher que ce qu'elle m'aura offert, elle. Du coup, je pense que cette année, je vais rentrer direct dans son petit jeu de la séduction avec à la clé un truc du genre bracelet en haricots secs. Oui, je vais lui faire un cadeau du même acabit. Je vais lui offrir un diadème, fil de fer, pot de yaourt. Et là, tu verras que l'année prochaine, j'aurai un truc de valeur pour la fête des pères. Oui, je sais, c'est monstrueux, mais la vie est monstrueuse. Et ça, il faut qu'elle le comprenne le plus tôt possible. Sinon, aujourd'hui, en plus de la fête des pères, il y a un gros événement. L'anniversaire d'une des plus grandes dames du showbiz. Annie Cordy fête ses 91 ans, les amis. Eh oui, 91 ans, toujours vaillante, tata yo-yo. De la passion, des plumes sur la tête. C'est peut-être ça, le secret du succès. Sinon, il y a encore plus prestigieux. Aujourd'hui, 16 juin 2019, si toutefois il n'était pas mort, Geronimo aurait eu 190 ans. Oh, Geronimo, il les a emmerdés, les Américains, ce bon vieux Geronimo. Geronimo, de la passion et des plumes, lui aussi. Ah, mais ça veut dire que... Ah bah merde, alors. Mais oui, bien sûr. En plus, ils sont nés le même jour. C'est évident, Annie Cordy est la réincarnation de Geronimo. Vous les femmes... Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche qui est podcastable à volonté pour m'accompagner l'homme de tous les talents et de tous les dangers. Albert Algou, comment allez-vous?
Je vais d'autant mieux que j'ai survécu à beaucoup de dangers cette semaine, mais c'est bientôt l'été. Les jours rallongent comme le nez de Pinocchio.
Et comme vos intestins qui essayent de sortir, vous avez un début de... Vous nous l'avez dit tout à l'heure.
De comment ça s'appelle? De hernie? Non, mais je pense pas. Je pense, j'ai un peu mal, mais je crois, je vais surmonter ma douleur.
Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à 18h?
Oui, bien sûr.
Bon, ça va bien.
Et je le surmonterai.
Oh, ça va pas du tout. Il est en train de crever.
Jusqu'à 18h, je suis d'autant plus content. Nous avons des invités exceptionnels aujourd'hui.
Exceptionnels, c'est le mot. Autour de la table, c'est la première fois qu'on l'a, il y a Alicia Vulot. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Alors Alicia, en plus d'être belge, vous êtes réalisatrice sur France Bleu et vous travaillez sur France Inter tout l'été. C'est bien
exactement.
Ça
exactement.
Alors pour des raisons de gestion de l'espace, vous vous retrouvez dans nos bureaux et vous m'avez dit « Je veux absolument parler au micro, prenez-moi, promis, je serai bonne. »
Et promis, je ne dirai pas oui.
Vous ne direz pas oui, j'espère bien. Alors, ça se passe comment à France Inter?
Ça se passe très bien.
Très bien. Oui. Alors, les gens sont sympas avec vous?
Joker?
À quelques exceptions. Oui, vous m'avez parlé de problèmes avec certaines équipes. C'est qui déjà?
Joker?
Eh oui, une grande radio, une grande famille, mais pas mal de salopards. Et elle a eu affaire à eux. C'est dommage, mais heureusement, vous finissez dans notre bureau. C'est quand même pas mal.
Et je suis très reconnaissante.
Vous prenez la parole quand vous voulez, Alicia, mais pas trop non plus. Et nos invités en ce dimanche 16 juin sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Médecin urgentiste pendant 12 ans, elle connaît la musique et l'ambiance de ce service si délicat et passionnant à la fois. Elle publie un recueil des plus belles, entre guillemets, remarques entendues dans le service. Patient casse-couille, c'est le titre du livre paru chez L'Opportun. Bonjour et bienvenue Sonia Camet.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va?
Oui, ça va aller.
Alors, médecin urgentiste qui arrive en pleine crise des médecins urgentistes. En ce moment, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien.
Pas de souci.
Sans souci, mais bien sûr, on va parler de ce recueil avec des réflexions qui sont totalement hilarantes. Elles sont toutes vraies parce qu'elles ont l'air venues de l'espace.
Non, elles sont authentiques.
Tout est vrai. Oui. Alberto, juste une petite au hasard comme ça que vous avez repéré, qui vous a plu?
Et depuis quand il n'est plus possible d'avoir des ordonnances pour du cannabis? Ou alors, j'aurais dû me faire vacciner pour être moins con.
On est nombreux à pouvoir poser cette question. Face à vous, docteur, comédienne, auteur, metteur en scène et journaliste, elle vient nous voir pour une pièce qu'elle a écrite et mise en scène, une pièce inspirée d'une histoire vraie, pièce qu'on a adorée, intitulée Les crapauds fous. C'est au Théâtre du Splendide jusqu'au 30 juin, donc dépêchez-vous. Bonjour et bienvenue, Mélodie Mouret.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ça se passe bien, la pièce, c'est plein?
Ça se passe très bien, on est très contents, oui.
Ben, en même temps, c'est bien, comme dirait... Le brillant Nagui, c'est intelligent et ça fait du bien. Voilà une présentation un peu sommaire, les amis.
Et on n'en sort pas indemne.
Oh, jamais. Pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami. Un ami maréchal à la retraite, attention. Bonjour maréchal Ganache.
Garde à vous les femmes, repos vous les hommes. Alors aujourd'hui, dimanche 16 juin, Morin, c'est la Saint-Cyr. Ah. En tant qu'ancien cirard, élève officier de la prestigieuse école de Saint-Cyr, j'aurais aimé que dans votre préambule interminable, vous mentionnassiez cet événement.
Maréchal, je ne vois pas le rapport avec nos événements.
Vous trompez, Morin. Les gars comme moi et les filles qui sortent de Saint-Cyr, toutes et tous, en ont dans le froc. Exactement comme Eugène Lavsvosky et son ami Stanislav Matulevis, les héros des crapauds fous, la pièce formidable écrite et mise en scène par Mélodie Morella, vous l'avez bien présentée.
Oui.
Mes hommages, madame.
Il est vrai qu'au péril de leur vie, ces deux médecins polonais mirent au point un ingénieux stratagème pour sauver des milliers de gens de la barbarie nazie.
Vous voyez bien, Morin, que je sucre pas encore tout à fait les fraises.
Non, pas tout à fait.
Vous savez, tout ce qui peut faire du tort aux Boches n'est pas pour me déplaire.
Ce n'est pas un peu germanophobe.
Négatif, mais je vous félicite, madame Moret, de faire revivre dans cette pièce qui allie gravité et légèreté des gars qui roulèrent dans la farine les Schleux, les Fridolins, les Doriforts, les Spoons, les Teutons, les Verts de Gris. Mais surtout, je vous tire mon képi de le faire en transfigurant ces heures d'angoisse et de terreur au prisme de l'humour et de la fantaisie. Fantaisie qui imprègne chaque page de l'excellent ouvrage de Camé Sonia, elle aussi médecin, comme Eugène et Stanislav, que je viens d'évoquer.
Vous voulez parler de patients
cassés. Ne m'insultez pas, Morin.
Mais je cite le livre de Sonia Camé, sous-titré « Faut rire aux urgences », publié aux éditions de L'Opportun. Enfin.
Excellent éditeur, qui a publié plusieurs ouvrages de mon ami Albert Algoudon. En fait, il est où, Albert?
Il est parti. Il est aux commodités.
Il est gentil. Bon, intelligent. Il a une hernie.
Revenons à patient Casco, s'il vous plaît.
Ne m'insultez pas, Morin. Vous feriez mieux d'exalter les qualités drôlatiques de ce florilège hilarant de propos insensés, de perles aberrantes proférées aux urgences par des patients dont il est sûr que s'il y a une chose qu'il ne tuera pas, c'est le ridicule. Un livre qui, cela va sans dire, exorcise les affres de l'actuelle situation pour le moins dramatique des urgences hospitalières. Ceci dit, docteur Camé, comme vous exercez désormais en tant que gériatre, et comme celui des vieux glands, mon EHPAD est un incapable notoire, je voudrais vous faire part de mes problèmes dernier et de transit.
Ah, tout à l'heure, là on n'a pas le temps. Après l'émission, Maréchal,
je vais chercher Albert alors.
Non, le docteur s'occupera de vous.
Merci.
Falls in the Grease sur France Inter. In the Grease Falls dans Vous les femmes.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais. Étends sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
La présence est également de Mélodie Mouret pour Les Crapauds Fous. C'est au Splendide jusqu'au 30 juin. Ça se joue les vendredis et samedis à 19h. Le dimanche est à 17h30. Présente également le docteur Sonia Kamet qui publie chez L'Opportun « Patients, casse-couilles, les meilleures phrases entendues en salle d'attente des urgences ». Mesdames, nous allons revenir sur quelques dates importantes qui ont émaillé vos parcours. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en parle ?
Oui, oui.
Ah, ouf ! J'ai peur.
Quel soulagement !
Oh là là, énorme !
Oh là là,
on commence suspense. Par vous, Mélodie. 2003, vous avez 13 ans, première fois au théâtre à Paris, vous allez voir Hypothèque. Et
oui.
Là, c'est le choc.
Oui,
pourquoi ?
Complètement. Parce que c'est la première fois que je suis vraiment dans un grand théâtre. C'était au Théâtre de l'Œuvre, qui est un lieu magnifique. Mm-hmm. Et j'étais très impressionnée. Je pense pas tant par l'histoire, parce que je suis même pas sûre d'avoir vraiment tout compris à cette histoire de crédit immobilier. Et je pense que c'est pas ça qui m'a vraiment touchée, mais c'était de voir ces acteurs sur scène. Il y avait Roland Giraud qui m'a beaucoup impressionnée, de voir que c'était vraiment pour certains... une carrière, quoi, des gens faisaient leur métier du théâtre,
c'est
je trouvais ça
métier.
Fou. Ouais. Voilà, découvrir ça, en fait, c'était dingue de voir tous ces gens aussi réunis pour entendre une histoire. J'étais hyper émue en sortant de ça et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça plus tard.
Le déclic.
Ouais.
Sonia Kamet, nous on revient un petit peu en arrière, juin 1995, et votre nom est sur la liste de ceux qui sont reçus en deuxième année. Ça fait quoi ? C'est une grosse émotion, c'est beaucoup de travail, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien ?
C'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai redoublé ma première année.
Alors, ce qui arrive à beaucoup.
Ça arrive beaucoup, oui. Mais moi j'avais vécu comme un échec, et donc j'ai beaucoup, énormément travaillé. Je me suis même coupée de toute vie sociale pendant un an. Donc quand j'ai vu mon nom en haut de la liste, oui, effectivement, c'était un grand soulagement, mais une grande fierté aussi.
Et quand on dit on se coupe de toute vie sociale, ça veut dire aucune sortie du tout. C'est travailler quoi ? C'est travailler 15 heures par jour ? C'est apprendre des choses par cœur ?
Ah oui, moi j'ai bachoté du lundi au dimanche pendant les cours, en rentrant, je ne faisais que ça. Je mangeais en apprenant, je me lavais en apprenant. J'avais des mémos sur les miroirs qui étaient scotchés. J'en avais partout à la maison et je n'ai fait que ça.
Mélodie Mouret, 2013, Le Porteur d'Histoire. Ça vous donne envie d'écrire cette fois, après avoir eu envie de jouer, ça vous donne envie d'écrire.
J'étais vraiment éblouie par cette pièce. Je trouvais ça dingue d'être entraînée comme ça dans un tourbillon. Alexis Michalik nous emmène d'un lieu à l'autre. Il y a 5 tabourets sur la scène et 5 acteurs géniaux. Mais c'est tout, quoi. Ils nous transportent. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, c'est génial d'arriver à construire des histoires comme ça, avec pas grand-chose. Et au final, avec la même intensité qu'au cinéma. Et ça m'a donné envie d'essayer de raconter des histoires à mon tour.
Et c'est quoi la première histoire que vous avez écrite ?
La toute première, c'était, ça s'appelait Terminus, et c'était de l'anticipation. C'était un huis clos qui se passait dans le métro, dans une société un peu totalitaire, mais assez proche de la société actuelle. Voilà, c'était avant Les Crapauds Fous.
C'est celle d'avant Les Crapauds Fous. Là, on est en 2003 pour vous, Sonia Kamet. La thèse, avec félicitations d'un jury, et le président du jury qui vous glisse comme à l'oreille, qui trouve ça dommage que vous gâchiez tout en devenant urgentiste. C'est quand même bizarre comme réaction.
Oui, mais c'était une époque où les urgences étaient un peu l'endroit où on allait quand on savait pas trop quoi faire. Et on disait qu'on allait aux urgences quand on n'arrivait pas à faire généraliste ni interne spécialité. Donc à l'époque, personne ne voyait l'intérêt de faire une spécialité. Surtout qu'elle n'était pas vue comme une spécialité à long terme. C'était pas une spécialité d'ailleurs, ça fait très peu de temps. Ça fait quelques années que les internes se spécialisent en médecine d'urgence. Donc clairement, ils me voyaient très bien en médecin généraliste et pour eux, c'était une vraie catastrophe que j'aille en médecine d'urgence.
Et pourquoi ça représente une catastrophe ? Maintenant, avec le recul, vous comprenez que ça représente... Vous dites qu'ils sont complètement, complètement gâteux, ils sont à côté de leur pompe.
Je dirais pas qu'ils sont gâteux, parce que je dois respecter
quand
les
même,
pères.
Quand même un petit peu de respect, oui, pardon, je m'égare.
Mais j'ai aucun regret, j'étais sûre de mon choix à l'époque. Et j'ai passé 12 ans formidables, et si je devais recommencer, je refais exactement le même choix.
Exactement la même. Mmh. Oui, parce qu'en 2017, après tant d'années passées aux urgences, vous travaillez maintenant en gériatrie, et en même temps, il y a l'écriture qui vous titille, ça fait deux ans en gros que l'écriture vous titille, et vous écrivez là justement quelques brèves, et vous envoyez ces brèves au directeur des éditions de L'Opportun.
Oui, tout à fait. J'ai tenté quelques concours, j'ai essayé d'écrire un bouquin.
Ouais.
Rien n'a marché, clairement.
Vous avez arrosé tous les éditeurs,
c'est
personne
ça.
Ne vous a répondu.
Voilà, mais j'ai compris que finalement, raconter les urgences telles qu'elles étaient, ça attirait pas forcément les gens. Ce que veulent les gens, c'est soit du très noir, soit du très... très drôle. Mm-hmm. J'ai opté plutôt pour le drôle. Et j'ai envoyé un mail à Stéphane Chamna sans être convaincu.
Le directeur, oui.
Voilà.
Des éditions.
Parce que j'avais reçu par hasard un article sur Parents Casse-Couilles.
Alors c'est une collection, Pachin Casse-Couilles pour...
les casse-couilles, peut-être que ça le deviendra. Là, pour l'instant, c'est le deuxième exemplaire avec mon livre. Mm-hmm. Il m'avait dit, oui, pourquoi pas, c'est une idée. Il y a des casse-couilles partout, dans tous les domaines.
Oh oui.
Voilà. Et moi, quand j'avais lu Parents casse-couilles, je m'étais dit, oh, c'est rigolo, moi je suis maman. Je m'étais dit, ouais, c'est clair, je suis une sacrée casse-couille aussi.
Vous êtes reconnue dans les parents casse-couilles.
Oui, par moment, oui.
Et vous dites, évidemment, c'est transposable avec le service des urgences. Est-ce que vous aviez vécu? Et aussi, il n'y a pas que ce que vous avez vécu comme réaction. Que vous avez demandé autour de vous?
C'est celle que j'ai vécue. Il y en a peut-être une ou deux qu'on m'a racontées.
D'accord.
Mais globalement, je les ai toutes notées dans un petit carnet. J'avais mon petit carnet des urgences où je notais les noms, les prénoms rigolos et puis les phrases cultes que j'aimais beaucoup. Et quelques anecdotes aussi.
Et notamment quelques anecdotes où à un moment vous faites draguer par quelqu'un qui est complètement bourré.
Oui, ça, oui, j'attirais beaucoup les bourrés. Moi, j'attirais vraiment les bourrés. Et quand les gens avaient des questions à poser, c'était toujours en relation, soit avec leur vie intime, soit clairement, j'aurais dû être sexologue, je pense, en fait. J'ai loupé ma vocation, je pense.
Bah, c'est pas trop tard. Vous êtes en gériatrie, pourquoi pas après envisager un changement.
Alcoolologue, sexologue, gériatre, oui, c'est une idée.
Voilà, pourquoi pas.
Oui, pas de souci.
Mélodie Mouret, alors. 2017, vous découvrez l'histoire d'Eugène Lazowski. Vous décidez d'écrire une pièce pour raconter son histoire. Cette pièce marche, on en fait une pièce. La première, c'est au Ciné 13 Théâtre, pièce qui est programmée après au Splendide, cette année qui est nommée 3 fois au Molière. Et aujourd'hui, vous venez nous en parler, 16 juin 2019 à France Inter, pour présenter justement cette pièce, Les Crapauds Fous.
Oh, ils arrivent, les Allemands. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus? Que donc tout le monde est censé avoir un bon gros typhus. Et qu'en réalité, personne, je dis bien personne, n'est atteint du typhus.
Alors c'est quoi l'histoire des crapauds fous?
L'histoire des crapauds fous, alors c'est une histoire vraie. C'est deux médecins polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont décidé d'empêcher les déportations massives des juifs de leur village et de toutes les personnes qui étaient menacées. En mettant au point une supercherie complètement folle.
Voilà, parce que vous dites, ils ont décidé d'empêcher, voilà. Mais bon, il faut trouver les moyens.
C'est ça. À l'origine, ils veulent juste aider un de leurs amis qui est appelé dans les camps de travail et qui a été traumatisé, qui a déjà été dans ces camps, etc. Et ils le sauvent, et une fois qu'ils ont fait ça, ils se disent, si on l'a fait pour un ami, il faudrait qu'on le fasse pour tout le monde, en fait. Et donc, c'est le début d'une immense supercherie qui, évidemment, finit par éveiller les soupçons des nazis qui viennent sur place, vérifier, donc c'est...
Ouais, les nazis viennent enquêter pour savoir
ce qui se passe. Ils se rendent compte qu'en inoculant le vaccin du typhus aux villageois, ces villageois sont positifs au test, c'est-à-dire qu'on peut faire croire qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas, ils ont juste été vaccinés.
Et donc... C'est possible encore, on a un docteur sous la main, on va vous demander, docteur. Comme quoi, est-ce que c'est possible? On inocule un vaccin, et si on fait tout de suite la prise de sang, c'est comme si on était malade de la maladie pour laquelle on veut vous protéger?
Après un certain délai, oui, on peut être positif, selon le test utilisé, soit au germe lui-même, soit avec les anticorps. Mais oui, c'est possible.
D'accord. Et donc, c'est ce stratagème qui a été...
C'est exactement ça. Il décide donc de mettre tout le village en quarantaine en faisant croire qu'une épidémie de typhus... une épidémie qui effraie évidemment beaucoup les nazis à ce moment-là et qui leur permet de leur protéger.
La peur des nazis, voilà, c'est de prendre ces gens. Ils ne veulent pas les envoyer du coup en camp de travail parce qu'ils se disent c'est hyper contagieux et le camp de travail va être complètement dévasté et on n'aura plus de force de travail.
Exactement.
C'est juste une logique à la limite économique pour eux.
Oui, complètement.
Albert, ça vous a rappelé une autre histoire, ça?
Oui, dont on avait parlé ici, c'était...
Je ne sais pas, je ne vous écoute pas. Ouais.
Irena Slenderova, dont j'avais fait le portrait dans Il était une femme. Alors Irena Slenderova, il y a beaucoup de points communs avec les deux médecins, parce qu'elle travaillait au service de l'aide à l'enfance à la mairie de Varsovie. Puis quand commencent les déportations massives, elle est bouleversée par ça. Elle n'est pas juive, elle est polonaise. Et elle travaillait avec le docteur Korsak. Vous savez, il est resté célèbre parce qu'il a refusé d'abandonner les enfants. C'était des orphelins dont il s'occupait. Il est parti avec eux à Treblinka. Et elle commence à s'employer à faire sortir clandestinement du ghetto 2500 enfants. Elle réussira à les extraire. elle aussi avec des stratagèmes de nature différente, parce qu'elle avait une formation en plus d'infirmière de plomberie et de serrurerie, et donc elle va sortir des bébés dans sa mallette de plombier et dans son véhicule des adolescents. Elle en sortira 2500. Elle a été arrêtée, torturée, elle n'a pas balancé ses camarades de réseau, et elle, la résistance l'a fait évader. Elle a repris du service dans un hôpital, et longtemps après elle a été reconnue comme une personnalité fondamentale de Pologne, et 2018 a été une année Slenderowa en Pologne, et elle est bien sûr récompensée comme étant une des justes les plus éminentes. C'est un personnage extraordinaire qui fait penser beaucoup, beaucoup à Eugène et à Vladislav, vos deux médecins. Il y a vraiment des points communs, donc ça m'a ému justement cette histoire.
Alors ce qu'il y a d'épatant aussi dans Les Crapauds Fous, c'est qu'avec peu d'acteurs, il y a énormément de personnages.
Oui, alors il y a quand même 9 acteurs sur le plateau, oui, ce qui beaucoup, est énorme, mais beaucoup plus de personnages.
Mais qui font 20 personnages.
Ouais, exactement, 9,
oui,
exactement.
C'est formidable. Oui.
Ils changent tous plusieurs fois de personnages dans la pièce.
Et une mise en scène qui est hyper ingénieuse, hyper moderne, avec simplement des rotations.
Oui, exactement. Les décors d'Élie Chaumiac, qui sont hyper astucieux, qui tournent pour permettre de passer d'un extérieur à un intérieur, de changer d'époque. On passe de New York à la Pologne, des années 90 à la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, ça se passe au Théâtre du Splendide, c'est jusqu'au 30 juin, les vendredis et samedis à 19h et le dimanche.
Et les jeudis
aussi. Et les jeudis, vous en avez rajouté ?
Oui.
Il y a une tournée qui est prévue même.
Et une tournée qui va commencer en octobre, oui.
D'accord, vous allez vous reposer pendant l'été ?
Oui, voilà, exactement, fait une petite pause pendant l'été.
Sonia Camet, donc, L'Opportun, Patient, Casse-couille, vous avez choisi comment ces anecdotes ? Parce que j'imagine que le choix a dû être colossal.
C'était celle que j'aimais bien.
D'accord, c'était juste celle-là, vous les aviez en tête déjà ?
Oui, puis c'est celle que je raconte assez facilement, parce que souvent, quand je disais je travaille aux urgences, c'est toujours quelqu'un qui veut savoir une petite histoire un peu particulière. Tout le monde sait qu'il se passe des choses extraordinaires aux urgences, donc c'est celle que je racontais, donc j'ai pas eu de mal à choisir.
Mais est-ce qu'on arrive encore à être surpris par la nature humaine quand on voit quelquefois la bêtise ? Alors je sais pas si c'est la douleur qui fait...
C'est l'absurdité, le culot, la bêtise, la cruauté, la douleur. Et puis il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on peut faire n'importe quoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent aux urgences qui n'auraient pas besoin de s'y présenter, il faut aussi le dire. Un pourcentage quand même important de gens qui se pointent pour des motifs saugrenus.
Alors on a ce couple... qui vient parce qu'il est épuisé et il demande si, en fait, aux urgentistes, ils peuvent pas garder le bébé un petit peu, parce que le bébé pleure toute la nuit et dort le jour, donc ils sont au bout du rouleau et simplement ils ont besoin d'une nounou, mais ils voient que les urgences pour faire ça. C'est quand même bizarre comme réaction.
Non, mais c'était des jeunes parents mal préparés. Enfin, leur petit avait 8 jours. Et c'est vrai qu'ils étaient déjà très très fatigués. Je pense qu'on leur avait pas dit ou ils savaient pas la réalité de la vie. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce couple-là, c'est que le papa, il nous dit « Est-ce que vous pouvez le garder quelques jours ? Et on le reprendra quand il sera mieux réglé. » Bon, pour la petite histoire, on l'a quand même gardé en pédiatrie.
Ah, comme quoi c'est possible. Alors, pour vous qui nous écoutez, si vous avez un problème avec votre gamin, s'il est insupportable, les gens des urgences sont hyper compréhensifs. En ce moment, on n'y allait pas, ils sont un petit peu occupés, donc, mais un peu plus tard, attendez que le conflit se tasse un petit peu. Et puis, il y a les gens qui sont hyper impatients, ils sont... hyper égoïste, là je reprends l'exemple de cette personne qui arrive, qui s'est planté un couteau en plein sternum, qui a le manche encore qui dépasse, qui est amené sur un brancard. Donc évidemment, elle passe devant tout le monde, et là il y a un type qui attrape le brancardier et qui dit « j'étais là avant, j'ai mal à l'œil, occupez-vous de moi ». Mais c'est fou, mais on en voit souvent des comme ça.
On en voit.
Parce que alors, apparemment c'est placardé maintenant, on donne les délais d'attente et on dit c'est en fonction... de l'urgence du traitement à pratiquer que vous passerez, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Après, la plupart des personnes se trouvent plus urgentes que le voisin, parce que c'est...
Mais là, c'est dingue, une jeune fille arrive avec un couteau qui ressort. Non, c'est moi, j'ai mal à l'œil.
Mais là, j'ai choisi cette anecdote parce que je l'ai vécue, celle-là, et c'était tellement énorme et incroyable, même les gens qui étaient autour, il n'y a personne qui a dit un mot.
Comment on réagit à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut arrêter cette personne, il faut laisser quand même l'autre aller se faire déplanter son couteau.
Ah ben non, mais je lui ai dit de se rasseoir et que s'il continuait, il allait vraiment attendre longtemps.
Ah, donc, la menace, bravo.
Oui,
ah bah vraiment.
Oui, oui. Non, mais
Hippocrate doit se retourner dans sa tombe.
Ah oui, j'étais un peu émue moi-même, hein, parce que j'étais seule aux urgences ce jour-là, parce que mon collègue était parti en SMUR. Donc on m'emmène cette jeune fille, elle avait que 14 ans, hein, avec son couteau planté dans le sternum. Le tableau était impressionnant. Le résultat, non, parce que finalement, elle s'en sortait juste avec un petit trait sur le sternum. Mais quand même.
Et évidemment, ce n'est pas une légende. Il y a tous ces gens qui arrivent vous voir parce que, malencontreusement, ils se sont assis sur un objet qu'ils n'arrivent pas à retirer.
Sur un verre,
Albert,
sur un vibromasseur. C'est toujours par erreur.
Toujours les excuses. Il y a ce type qui dit « j'étais en train de faire le marché ». Je me suis assis sur cette courgette. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Alors, faut penser quand même que ce monsieur va faire le marché cul nu, parce qu'il s'assied sur une courgette qui rentre à l'intérieur. Et donc ça, parce qu'on a l'impression que c'est une légende, tellement on a de cas qui sont racontés comme ça. Chaque médecin, chaque urgentiste a son anecdote de quelqu'un qui, malencontreusement, entre guillemets, s'est introduit un objet.
Oui, ben on a notre concours d'objets, oui. Clairement, c'est un des objets les plus insolites.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme hyper insolite?
Les boules de pétanque, c'est fréquent, il faut le savoir.
Et enfin, le cochonnet?
Après, j'ai appris que c'était une pratique sexuelle. Enfin, bon,
et bref, le cochonnet avec? Non.
Non, pas toujours.
Non, pas toujours.
Le cochonnet d'abord, pour se mettre en jambe.
Ah, c'est le cas de le dire.
Oui, ben, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de bouteilles.
Ah, 5 par jour, hein, 5 fruits et légumes par jour, hein, n'hésitez pas. Mais mangez-les, ça marche mieux.
Des bouteilles, énormément, enfin tout objet un peu évocateur, hein, en allant pour faire glauque, on peut dire le biberon aussi, mais c'est pas, c'est pas très classe, mais ça se fait aussi.
Et à chaque fois, il y a personne qui a l'honnêteté de vous dire, bon ben voilà, j'étais en train de m'amuser, j'arrive plus à le sortir. À chaque fois, c'est malencontreusement.
Il commence par là.
Et
puis finalement, moi je leur disais...
Détendez-vous.
Voilà, franchement...
Pas dans tous les sens du terme,
vous êtes aux urgences, plus rien peut nous étonner. Enfin, je leur disais, hein, vous savez, franchement, vous pouvez y aller, ça, on va gagner du temps.
Et comme le suggère notre réalisatrice Marie-Annick Rimbaud, le problème c'est qu'on ne peut pas dire, asseyez-vous. c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est très
bien. Non, mais c'est pour ça qu'on les reconnaît, parce que soit ils sont debout, effectivement, ils ne veulent pas s'asseoir.
Non mais on rit, mais c'est horrible, c'est atroce.
Non mais c'est ça, on le sait. Parce qu'on leur fait asseyez-vous, ils font non, je préfère rester debout, ça va aller. Ou ils acceptent de s'allonger à plat ventre sur le brancard. Donc là, on sait qu'on va être très vite dans le vif du sujet.
Dans le cas de le dire.
Alors, et puis il y a ces patients qui ne comprennent pas le principe. Là, j'avais noté ça, cette personne qui est presque d'un ton menaçant, qui dit aux urgences, soit vous me prenez tout de suite, soit je m'en vais. Le débile profond, quoi. Mais c'est des gens qui... Non, il y a quand même des gens idiots qui viennent vous voir. C'est pas possible pour sortir ça.
Il y a des gens angoissés, je dirais.
Oui, c'est l'angoisse qui fait que...
Oui, c'est parce qu'ils ont vraiment envie d'être vus tout de suite. Les gens qui viennent aux urgences, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, il y en a qui n'ont rien à y faire. Il y en a surtout qui n'ont pas trouvé d'autres solutions.
Oui.
Enfin, quand on a un problème de santé ou quand on a une vraie question... Le médecin traitant, il n'y en a pas tant que ça. Appeler le 15, c'est bon, ils sont débordés. Puis pour leur poser une question, je m'inquiète parce que j'ai une boule de pétanque dans le derrière, j'arrive pas à la ressortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, donc clairement, il faut qu'ils viennent aux urgences. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de réponse à leurs problèmes. Donc ils sont hyper angoissés. Et quand ils viennent aux urgences, c'est tout de suite. Et comme en plus ils savent qu'il y a de l'attente, ils se disent que plus ils ont l'air pressés, plus on va les prendre rapidement.
D'accord. Enfin, il y a quand même des gens qui ont des réactions bizarres. Là, je pense à l'anecdote avec ce monsieur qui vient et qui vous dit « Ma femme est enceinte, je comprends pas, pourtant, tous les soirs, prends la pilule. » Et en fait, au final, c'est lui qui prend la pilule tous les soirs parce qu'elle, elle veut pas, elle a peur de grossir.
Bah ça, oui, il y en a quelques-uns. Mais après, j'avais un de mes professeurs qui m'avait dit « Si t'as un patient qui a pas bien compris, c'est que t'as pas bien expliqué. »
Là, en l'occurrence, c'était pas votre faute.
Non, mais globalement, on fait dire qu'il y a un problème de communication quand même.
Par exemple, ce patient qui vous dit « Ma femme a de gros problèmes de prostate. »
Oui, là, je peux rien faire. Par contre, là,
je peux rien faire pour lui. Et ça va mieux. Et ça va mieux depuis la prostate de madame.
Oui, oui, on l'a. Le dosage des PSA était normal. Il n'y a pas de souci.
Alors, il y a ceux qui viennent vous voir parce qu'ils sont sous.
Oui, notre grosse clientèle du soir.
C'est ça. Complètement imbibé.
Celle qui répond intelligemment, qui est agressive, qui vomit sur les pieds, qui crache.
Ou qui vomit dans son plâtre.
Ah oui, oui, oui. Mais je suis désolée, mais ceux-là, c'est les vrais casse-couilles, par contre. J'adore mes patients, il n'y a pas de souci, même si j'ai quitté les urgences. Mais ouais, il y en a qui sont beaucoup trop inventifs. Le monsieur qui avait vomi dans son plâtre pour ne pas vomir dans le bus... Clairement, il a fallu le prendre vite parce que ça brûle, hein, le vomi.
Oui.
Mais personne ne voulait y aller. Hein, parce que l'infirmière, tout d'un coup, disait « Oh, moi, je ne sais plus enlever les plâtres. » L'aide-soignante disait « Oh, c'est pas à moi de faire ça. » Donc, c'est tombé sur moi. Avec la scie électrique, c'est avec la bouse partout. Non, franchement, c'est...
En même temps, il avait un geste citoyen de ne pas vomir dans le bus.
Oui, mais j'ai eu du mal à le féliciter quand même. non, franchement, on a mis une heure à donner une odeur normale à la salle. Enfin, non, franchement, c'était pas...
Et puis aussi cette dame qui apparemment avait passé une nuit un petit peu agitée et qui, avec un monsieur, elle se demande s'ils n'étaient pas trois au final.
Oui,
comme quoi l'alcool, c'est moche.
Oui, mais effectivement, elle était encore alcoolisée quand elle est venue. Son inquiétude, c'était elle voulait un kit d'exposition au VIH.
Oui.
Mais elle a mis du temps à nous le sortir. Ça aurait problématique. Mais effectivement, elle nous a dit c'était 1, 2, ah, peut-être 3 quand même. Oh, je sais plus. Donc elle avait passé une bonne
Et c'est
soirée.
Possible médicalement quand un patient vous dit j'ai une maladie qui fait que mon corps fabrique de l'alcool.
Alors c'est très fréquent, mais moi je la connais pas bien cette maladie. J'ai beau regarder, j'ai fait plein de recherches et je la connais pas.
Ça c'est toute la série alcoolisée où vous faites, à la demande des policiers ou de la gendarmerie, vous faites un test d'alcoolémie, vous révélez le taux d'alcoolémie qu'il y a dans le sang et les gens sont complètement étonnés, comme cette personne qui est étonnée d'être à 3 grammes alors qu'il dit n'avoir bu qu'une petite bière.
Ou qui dit qu'il y a de l'alcool dans le tube déjà.
C'est ça, mais oui apparemment les bières sont très alcoolisées. Selon les régions, une bière suffit pour avoir 3 grammes, donc il faut se renseigner avant je pense quand même.
Voilà. Patient casse-couille, faut rire aux urgences, aux éditions de L'Opportun, c'est signé le docteur Sonia Camet. Mesdemoiselle, nous vous a demandé des titres qui vous rappelaient un bon souvenir, en tout cas on l'espère. Tenez, on était avec vous Sonia, on va continuer. Vous avez demandé...
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas... artificiel, je voudrais que tu te ramènes.
Louise Attaque avec Viens, je t'emmène au vent. Qu'est-ce que ça vous rappelle ?
Mes études.
Vos études ?
Oui.
Quand vous étiez en train de réviser comme une malade ?
Non, après.
Après.
après le fameux concours pour entrer en deuxième année. J'ai eu un lycée assez médiocre, j'ai eu un concours très difficile à passer. Et là, voilà, j'entre en médecine avec des amis qui sont toujours mes amis, je vis vraiment mes études à fond, et ce qui va avec, enfin je vis la fac à fond. Et c'est vraiment des années fabuleuses pour moi. Et Louise Attaque, moi j'étais la seule à avoir une voiture, donc on mettait Louise Attaque à fond dans la voiture, en allant en cours, en stage. Mon mari, qui était loin, a écouté ça aussi, donc c'était un peu notre morceau de rapprochement. Et il dit des choses très intelligentes. Je trouve que tu m'appelles pas souvent. C'était directement pour mon mari, ça, en fait.
Oh, les petits messages. C'est mignon.
C'est mignon.
Votre mari, vous dites qu'il a quand même un petit peu galéré. C'était à l'époque où vous n'aviez pas encore fini vos études, où vous finissiez tout juste. Et vous aviez déjà 4 enfants. Et c'est lui qui s'en occupait.
Oui. Ben, la vie aux urgences, c'est pas une vie régulière. Pour la famille, c'est pas simple. On travaille souvent par cycle de 24 heures. Et donc, 24 heures, quand on n'est pas là, quand il y a 4 petits à la maison, c'est compliqué. Il faut que le mari assure. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, il l'a fait pendant 12 ans.
C'est un saint homme.
C'est ça.
C'est un saint homme, on peut le dire. C'est un saint homme. Mélodie Mouret, vous avez choisi un autre style. Queen avec Don't Stop Me Now, ça vous rappelle quoi ?
Ça me rappelle le tout début des Crapauds en fait, quand on répétait, il fallait installer le plateau, on mettait ça tous les matins et ça donnait...
Ça donne de l'énergie, ça donne la pêche, ça fait monter le plateau plus vite.
Exactement, ouais. C'était très joyeux. Ouais.
Et vous continuez à l'écouter
Souvent, ouais. J'adore cette chanson. Ouais.
Alors, mesdemoiselles, là maintenant c'est fini la rigolade. Mélodie, Sonia, on va revenir sur vos vies, mais façon... France Inter, on va vérifier si vous avez la fibre de gauche, si vous avez le cœur sous la main, vous allez vous faire intériser. Mélodie Mouret. On pensait tenir avec elle la future étoile montante de la lutte des classes. Enfance passée à Toulon, ville aussi portuaire que misérable, où les marins de tout poil fricotent avec les poissonnières à moustache de la région PACA pour oublier l'espace d'une romance à fleur de quai, les conditions exécrables de leur vie de soumission au service d'une économie où les droits du travailleur sans frontières se dissolvent dans l'eau salée sans espoir et des eaux internationales. Elle poursuit ses études, de psycho, puis ses sciences po, à Aix-en-Provence, puis elle intègre la rédaction d'un magazine culturel, l'éléphant, Mais ce parcours fait-il nécessairement de Mélodie Mouret une femme de cœur? Non! Bien sûr que non! À peine débarquée à Paris, c'est le chant des sirènes du music hall qui vient teinter à ses oreilles toulonnaises psychologues. Le théâtre, le jeu, la mise en scène, 3 ingrédients aussi nocifs pour le cœur que diabolisants pour l'âme. Aujourd'hui, avec le succès, c'en est terminé les bons sentiments. Elle ne reviendra plus en arrière, hypnotisée qu'elle est par sa nouvelle vie de débauche. Elle va continuer son œuvre en multipliant les créations théâtrales, tout ça dans le but de palper un max d'oseille tout en embauchant des intermittents à des tarifs de misère. Perpétuant de la sorte un grand classique du pacte social du showbiz, à savoir l'exploitation de l'homme par l'homme au service de l'art et par le biais des drogues dures et des alcools fous. Hérétique ! Est-on mieux loti avec le docteur Camet ? On l'a cru, on a eu tort. Pourtant, c'était si bien parti. Comme Mélodie Mouret passe son enfance près d'un port. Nous ne sommes plus du côté de Toulon, mais en Bretagne. Ah, la Bretagne !
Bretagne, berceau de la misère et de la précarité intellectuelle. Bretagne détrempée par les pluies incessantes. Bretagne, terre où parfois le sol est plus humide que la mer. Puis c'est l'exode vers une autre terre hostile, la Touraine. Aller au collège en Indre-et-Loire, c'est un peu comme aller à la guerre. On ne sait pas si on rentrera vivant chez soi. La petite Sonia a donc tout pour devenir la porte-drapeau des oubliés de la vie, en rédaction et en réaction aux frustrations de l'enfance liées à l'hostilité culturelle qui l'entoure. Mais est-ce que cette enfance liée au cauchemar fondateur qui fait d'elle une proie idéale pour l'angoisse la rend pour autant éligible au rang de femme de cœur? Non! Bien sûr que non! Et vas-y que je fais médecine. Médecine non pas pour aider les pauvres, mais pour se faire un max de blé. Et ça au service des urgences. Elle soigne en priorité les riches et les nantis qui lui versent des liasses et des brouettes de pognon pour qu'elle stoppe leur hémorragie ou retire un objet malencontreusement rentré par hasard. Et maintenant elle coule des jours heureux au soi-disant service des vieux pour sûrement mieux les délester la nuit. Hein, vu leur maigre retraite, et pourquoi pas s'incruster sur leur testament avant de les envoyer vers un aller simple pour Saint-Pierre, après leur avoir dispensé la petite piqûre dans le gras du cou, qu'on appelle euthanasie. Criminel ! Sonia, Mélodie, vous êtes loin d'être des exemples de lutte des classes, mais qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir aujourd'hui pour fêter les 190 ans de Geronimo ! Dépêche mode, chèque de Dizzy, ça veut dire secoue les maladies. Et ça, c'est une idée brillante de notre réalisatrice, Marie-Annick Rameau, qui s'est dit, hey, docteur, maladie, les urgences, ça va être bien. C'est vrai que c'est bien, Marie-Annick. Total respect pour toi. Disease, Dépêche Mode sur France Inter dans Vous les Femmes.
Vous les Femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie du docteur Sonia Camet qui publie chez L'Opportun Patient Casse-couille les meilleures phrases entendues en salle d'attente des urgences. Également avec nous, Mélodie Mouret pour les crapauds fous, c'est au Splendide jusqu'au 30 juin. Dépêchez-vous, les vendredis, samedis et également les jeudis, je viens de l'apprendre à 19h, et le dimanche à 17h30. Mélodie Mouret, au début de la pièce, les crapauds fous, on voit la,
on peut appeler la co-narratrice de l'histoire, qui vient voir justement ce médecin pour qu'il lui raconte son épopée. Et elle cite une autre expérience sur laquelle elle a travaillé et qui est également vraie, cette expérience. Vous pouvez nous en parler?
Oui, elle est en train d'étudier l'expérience de Milgram sur la soumission librement consentie. En fait, c'est l'expérience des chocs électriques. Milgram avait demandé à des sujets d'envoyer des chocs électriques à d'autres personnes. Les gens faisaient semblant de recevoir ces chocs, hurlaient.
Et qui avait fait ça, pourquoi?
Pour tester la soumission, en fait. Qu'est-ce qui
fait
que les gens...
C'est la soumission à l'autorité.
Exactement, la soumission à l'autorité. Et quand il étudie ça, il se rend compte qu'en fait, la grande majorité des gens obéissent à l'autorité, alors même que les gens hurlent, leur demandent d'arrêter. Voilà. Et ce sont pas des gens sadiques, ce sont des gens comme tout le monde, en fait. Et ça permet d'expliquer aussi...
Comme tout le monde, vous savez, d'un coup d'œil rapide autour de cette table, j'en vois qui, enfin, voilà, je me comprends.
Voilà, non, mais c'est une expérience que je trouve vraiment géniale. Elle montre qu'il faut pas être particulièrement mauvais pour agir de façon mauvaise. C'est la situation aussi qui fait qu'on agit bien ou mal. Et elle étudie ça mon personnage étudie ça dans Les Crapauds Fous, parce qu'elle s'intéresse à ceux, pas à ceux qui ont envoyé les chocs, mais à ceux justement qui ont refusé de le faire. Elle se demande qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne flanchent pas, que certaines personnes arrivent à ne pas se soumettre et à garder leur... rester fidèles à ce qu'elles croient et ce qui leur semble juste. Et c'est ça, les crapauds fous, parce que les crapauds fous, ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a un phénomène biologique qui est réel, qui est que certains crapauds dans la nature ne vont pas dans le même sens que les autres.
Ah. Pourquoi ?
Ils partent à contresens. Alors justement, les scientifiques ne savent pas l'expliquer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que dès qu'il y a une catastrophe naturelle ou quelque chose qui fait que la vie de l'espèce est mise en danger, c'est sur ces crapauds fous qui sont allés ailleurs que repose la survie en fait du groupe. Donc je trouve que c'est une métaphore intéressante pour parler de résistance.
Donc vous l'avez compris, allez voir Les Crapauds Fous, c'est au Splendide, jeudi, vendredi, samedi à 19h et le dimanche à 17h30. Docteur Sonia Camet, vous avez remarqué, en ce moment il y a un peu de rififi dans les services d'urgence de nos hôpitaux.
On n'a plus l'impression de faire notre travail correctement et ça devient de plus en plus compliqué. Puis quand on entend après des discours comme la ministre de la Santé qui clairement... résume notre mouvement par un souhait de gagner plus, elle n'a rien compris quoi. Pour moi, il y a clairement un mépris, elle est à milieu de la réalité en fait.
C'était un son de Benjamin Toffolet pour la rédaction de France Inter. Alors vous, docteur, qui avez travaillé 12 ans comme urgentiste, est-ce qu'au fil du temps vous avez vu la situation se dégrader ou bien ça a toujours été la catastrophe comme c'est le cas aujourd'hui ?
Ça se dégrade depuis plusieurs années. Pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a eu des restrictions budgétaires au niveau des hôpitaux publics qui ont amené à des pertes de postes. Il y a moins de personnel, alors que le nombre de patients augmente quotidiennement. Enfin, les urgences doivent faire face à un flux de patients qui n'est pas contrôlé ni contrôlable. On ne peut pas savoir d'une journée sur l'autre combien on va en avoir, avec un effectif médical, soignant, enfin paramédical qui, lui, est constant. Et qui est déjà insuffisant avec, on va dire, une activité normale. Donc, ça ne fait qu'approfondir le malaise et les difficultés de prise en charge. Et quand elle dit le ministre de la Santé n'a rien compris ou les administrateurs ont rien compris, c'est effectivement, on ne parle pas de la même chose. Enfin, pour nous, c'est-à-dire que quand on a pour vocation de soigner les gens, nous, on voit la santé. La santé qui est quand même ce qui est plus cher et de plus précieux pour les personnes. Si on n'a pas la santé, on a notre activité quand même qui est limitée. Si les gens viennent aux urgences, ils viennent à l'hôpital, c'est pour qu'on les répare, pour qu'ils puissent être effectifs, rentables, tout ce qu'on veut au niveau de la société. Nous, on parle santé, on parle prendre soin des gens, on parle du côté humain. On dit que c'est important d'être avec les gens, les consoler, les rassurer, leur expliquer, communiquer. Quand on en parle à l'administration ou au ministre de la Santé, il nous répond « argent ». Alors que la plupart, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut bien faire notre travail, on veut avoir le temps. Et clairement, on n'a pas le temps, mais à toutes les échelles et dans tous les services.
Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure, en fait, il n'y a pas que les urgences qui sont touchées.
Non,
c'est
non,
tous les services.
Oui, tous les services, parce que dès qu'on parle urgence, enfin, l'hôpital est devenu une entreprise. C'est devenu, il y a des budgets, il y a des sous, il faut être rentable.
Les directeurs d'hôpitaux, oui, directeurs et directrices sont devenus des administrateurs, en fait.
Oui, ils n'aiment pas quand je dis ça, parce qu'ils essayent quand même d'avoir une vocation d'apporter de la santé à la population.
C'est leur mission au départ.
C'est leur mission de départ. Mais ils sont soumis aux mêmes contraintes qu'une entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il faut que les comptes soient positifs. Et comme on ne peut pas trop réduire les malades... Enfin, c'est pas facile. Oui. Réduire les soins, ça fait pas riche non plus. Enfin, ça se fait pas trop. Ben, on réduit le personnel. Donc on a un personnel actuellement dans tous les services qui fonctionne en service minimum, donc qui a la tête dans le guidon toute la journée, avec une accentuation du problème le week-end. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des établissements, il y a un effectif de week-end, ce qui nous laisse rêver, c'est-à-dire qu'il y a un sous-effectif, parce qu'on considère que le samedi et dimanche, les gens sont moins malades. C'est vrai que clairement, la grippe, le vendredi soir, il se dit, on va se calmer un week-end peu, aussi, voilà. Donc le samedi et dimanche, il y a moins de monde, dans tous les services, mais aussi dans les services d'urgence. Enfin, soigner les gens, ça nécessite de, c'est de l'humain, c'est prendre du temps. Et le temps, on ne nous en donne pas. Et on nous répond, le temps, c'est de l'argent. Mais on n'a pas le même discours, donc c'est très compliqué de
s'entendre. Et les premières mesures qui seraient à prendre, ce serait quoi? Dans l'idéal, dans un monde idéal?
Dans un monde idéal, c'est il faut du monde. Ouais. Il faut des aides-soignants, des infirmières, des médecins. Il faut des locaux adaptés, il faut des lits. Il faut,
Est-ce qu'il y a un problème aussi avec le matériel qui est très vétuste?
Pas forcément, oui, ça dépend des hôpitaux. Il y a la plupart des hôpitaux, notamment les CHU, sont quand même bien équipés, hein, que ce soit en radiologie, même en matériel, on est bien équipés. C'est le temps qui nous manque.
Et vous croyez que ça va s'arranger ou s'enliser ce problème? Parce que là, ils sont bien partis, vos anciens collègues.
Ça couvre depuis longtemps, Je pense que ça va s'enliser. Je dirais, je l'espère presque, parce qu'il faut vraiment que ça change. Les urgences, c'est la vitrine de l'hôpital. Hein. S'ils améliorent les urgences, et en amont, ils amélioreront les autres services. La solution, je ne l'ai pas, mais clairement, on le dit tous, hein, on va droit dans le mur. On est en train de faire une médecine à deux vitesses. Clairement, il y a les riches, entre guillemets, qui peuvent aller dans le privé. Il y a ceux qui sont vraiment en situation de précarité, qui n'ont pas forcément le même accès aux soins. Hein. Quand on dit ça, tout le monde nous dit « Ah non, c'est pas vrai ». Mais si, c'est vrai, dans les faits, c'est vrai. Et les gens, enfin les urgences, quand on dit... sur le livre, tout le monde m'a dit « Ouais, tu dis que les patients sont casse-couilles, qu'ils n'ont rien à faire aux urgences ». Ben, c'est pas ce que je dis, en fait. C'est juste...
livre... C'est anecdotique.
Voilà, je voulais qu'on se détende un petit peu, parce que c'est pas drôle. Enfin, les urgences, c'est pas drôle au quotidien, mais il faut bien raconter un petit peu de drôle pour en sourire, mais... Franchement, c'est compliqué.
Merci pour vos lumières, en tout cas. Mais je rappelle, vous n'êtes pas venu pour ça, pour nous parler des grèves aux urgences. Vous êtes venu justement, là, on vient de le mentionner, pour patients casse-couilles, fou rire aux urgences, des petites anecdotes. C'est publié chez L'Opportun. Alors, Albert, en dehors des hernies de ventre, il a aussi une spécialité, c'est de nous parler de femmes fantastiques, de femmes malheureusement inconnues, pourtant exceptionnelles. Il était une femme, aujourd'hui ce sera le portrait de Marie Marvin. Vous écoute, Alberto.
Alors, il était une femme, Marie Marvin, elle naît en 1875, et après la mort de ses frères, son père la laisse s'initier à des sports dont il aurait aimé que ses garçons les pratiquassent, vive le subjonctif imparfait, comme la natation, l'escrime, l'équitation et le canoë. En 1880, elle est une des premières femmes titulaires du permis de conduire. Et au cirque Rancy, qui est à l'époque une institution énorme, elle s'initie aux arts circassiens. La voici funambule, trapéziste, jongleuse et écuyère. Elle ne néglige pas pour autant ses études, obtient une licence de lettres, étudie le droit, les langues vivantes et obtient un diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. Elle n'a besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, racontera-t-elle. En outre, elle refuse de se marier, elle est malthusienne et d'avoir des enfants. En 1900, elle obtient son brevet de pilote de ballon libre et sa passion pour l'aéronautique ne se démentira jamais. Un peu plus tard, elle prend le départ de la course cycliste Nancy-Bordeaux. Les femmes n'étant pas autorisées à porter un pantalon, eh bien elle invente, et oui c'est elle, la jupe culotte qui facilite le pédalage. En 1908, elle veut prendre le départ du Tour de France, carrément. Tour de France cycliste, mais elle essuie un refus, compétition interdite aux femmes. Mais Marie prend le départ quelques minutes après les hommes, effectue le même parcours que le géant de la route. Sur les 114 coureurs qui arrivent, il y en a seulement 36, donc qui arrive, plus Marie. Alpiniste de classe internationale, elle fait notamment l'ascension de la Dent du Géant, de l'Aiguille du Grépon. Entre 1908 et 1910, à Chamonix, elle rafle plus de 20 médailles d'or en ski, patinage artistique. Remporte aussi avec Monique Bouvard la première compétition féminine de bobsleigh. Elle est titulaire du brevet de pilote et elle est la première femme à avoir piloté seule un avion. En 1913, après 900 vols sans histoire, son avion se crache à l'atterrissage et elle s'en sort par miracle. Quand éclate la guerre de 14-18, elle veut s'engager dans l'aviation, refus de l'armée. Marie se déguise alors en homme et intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied. Elle est démasquée, mais autorisée par le maréchal Foch à rejoindre le 3e régiment des chasseurs alpins en tant qu'infirmière sur le front italien. C'est pas tout. Après la guerre, Marvin devient journaliste, correspondante de guerre et officier de santé des armées au Maroc. Elle conçoit des skis métalliques pour permettre aux avions de se poser sur le sable du désert, invention qui sera reprise pour les atterrissages sur la neige. Elle s'investit ensuite pleinement dans l'aviation sanitaire, met au point un avion ambulance, donne des centaines de conférences sur le sujet, réalise un film, Les ailes qui sauvent, où elle apparaît. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sert en tant qu'infirmière de l'air, invente un nouveau type de suture chirurgicale qui minimise les risques d'infection. En 1955, pour son 80e anniversaire, le gouvernement américain lui offre un vol à bord d'un chasseur supersonique. Ça ne suffit pas à cette femme. À 84 ans, en 1959, elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère et pilote le Jin, premier et seul hélicoptère à réaction du monde. L'année d'après, elle effectue à vélo le trajet Nancy-Paris. Et à ce jour, Marie Marvin, la fiancée du danger, comme on la surnommait, demeure la femme la plus décorée de l'histoire de France. Mais... hélas, elle meurt en 1963 dans le dénuement et un relatif oubli, probablement parce que les records et les exploits accomplis par les femmes étaient assez peu reconnus à l'époque. Heureusement, des rues, de nombreux établissements scolaires et sportifs portent aujourd'hui son nom. Total respect pour Marie Marvin.
Merci Alberto, vous aviez entendu parler de cette jeune femme ?
Non, pas du tout.
Incroyable, hein ?
Incroyable.
Eh bien, toutes les semaines, on retrouve Alberto dans « Il était une femme », des portraits qui sont à retrouver sur le site « Il était une femme ».
Vous les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Mesdemoiselles, c'est peut-être la fête des pères, mais vous aussi aujourd'hui vous méritez des cadeaux et les cadeaux c'est l'affaire d'Alberto.
Alors pour vous Alicia, comme vous êtes nouvelle venue dans ce studio, l'excellente revue L'éléphant à laquelle collabore Mélodie Mouret. Et pour vous alors Mélodie, un bouquin qui fait écho à votre pièce, Les crapauds fous. C'est Audrey Kichelewski, c'est Les survivants, les juifs de Pologne depuis la Shoah. C'est aux éditions Belin, c'est l'histoire méconnue des survivants et de leur descendance de 45 à aujourd'hui, d'une communauté meurtrie et face à la persistance de l'exclusion. Voilà. Pour vous, Sonia Camet, alors un roman formidable, un roman policier, je sais que vous aimez qu'on vous offre des livres, c'est de Olivier Norek, c'est chez Michel Lafon et c'est son dernier roman qui est formidable, qui s'appelle Surface, et donc la capitaine Noémie Chastain qui a échappé à la mort, qui est défigurée, qui est mutée au fin fond de l'Aveyron, mais là, d'habitude, il ne se passe rien et là, il va se passer des choses terribles et elle mène une enquête formidable. Olivier Norek, Surface, chez Michel Lafon.
Vous avez reconnu la musique, ça veut dire que l'émission est terminée aujourd'hui. Nos invités étaient Mélodie Mouret pour Les crapauds fous au Splendide jusqu'au 30 juin. Ce sont les jeudis, vendredis et samedis à 19h que vous pouvez assister également. Le dimanche à 17h30, la excellente nouvelle, c'est qu'il y a une tournée à venir au mois d'octobre. On mettra les dates dès que Mélodie nous les aura communiquées sur le site de l'émission. Également présente le docteur Sonia Camet qui publie chez L'Opportun Patient Casse-couille les meilleures phrases entendues dans les salles d'attente des urgences. Merci Albert Algo.
Je vous en prie.
Merci à Lucia Vulot. Ça vous a plu? Ça s'est bien passé?
Très très bien, je reviendrai.
Vous reviendrez?
Oui, avec plaisir.
Vous serez accueilli avec grand plaisir également. À la réalisation de cette émission, celle qu'on appelle le prix Nobel, Marie-Annick Rimbaud, j'aime avoir de bons mots et de bonnes idées. Attachée de production, Christine Kern, à la technique, Florent Layani, programmation musicale, Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Catel et Lisa Spurio. Bon dimanche à tous et à toutes à l'écoute de France Inter, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin, 6h57.